de la paix. Il est 12h. Le bulletin de midi. Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous, il est 12h à Ebimpe à Cardio. Vous faites bien de suivre ce bulletin dont voici les titres. Les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire ont signé un accord relatif aux opérations de lutte contre les activités maritimes transnationales illicites. Les détails dans cette édition. Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, une discussion technique et tactique sur l'organisation de la compétition s'est tenue au centre principal des médias au Palais de la Culture. Elle a réuni les acteurs du football africain le 5 février dernier. Et puis au Sénégal, l'accès à Internet par les données mobiles est rétabli ce mercredi dans la capitale du Sénégal, Dakar, après 2 jours de suspension décrétée par les autorités sur fond de grave crise politique. Et en fin d'édition, nous aurons comme invité de la rédaction Dr Germain Cramaux, enseignant en économie. Il interviendra sur les conséquences économiques que pourrait engendrer le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO sur les pays concernés et l'organisation sous-régionale. Voici pour l'essentiel. Comme annoncé dans les titres, signature d'un accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux opérations de lutte contre les activités maritimes transnationales illicites. Initiées depuis le mois de mars 2021, les négociations ont donc abouti à ce projet d'accord. Les détails avec vous, Mata Touré.
L'accord maritime vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans le but de détecter, identifier, combattre, prévenir et même interdire les activités maritimes transnationales illicites. Le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kakou Adjoa Louadam.
Le territoire maritime de la Côte d'Ivoire est un enjeu pour nous existentiel. 90% de nos échanges, 80% des revenus qui nous permettent de vivre et de développer notre pays. Il va sans dire que nous devons accorder à notre territoire maritime, à notre plateau continental, à notre zone exclusive, toutes les attentions possibles. Et pour nous permettre de le faire, qui mieux que les États-Unis, qui disposent d'une marine la plus impressionnante et la plus efficace du monde, peuvent être nos partenaires.
La signature de cet accord se veut un renforcement de la coopération et surtout une étroite collaboration afin de parvenir à un environnement maritime plus sûr. Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire.
En fait, nous partageons notre océan Atlantique et c'est vraiment important pour nos deux pays de continuer à lutter ensemble contre les influences illicites dans la région.
À noter que la garde côtière américaine travaille déjà avec les gouvernements ivoiriens pour freiner l'élan des acteurs de menaces transnationales qui exploitent les domaines maritimes, souvent à des fins illicites.
Le mardi 6 février dernier marquait la 12e journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et même si la présidente du CFSI, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, note une amélioration depuis la loi de 1998, il est difficile de dénombrer les cas dans le pays. Julie Koné appelle à continuer la lutte car le fléau perdure.
Oui, ce qu'on peut dire en Côte d'Ivoire, c'est que c'est une question qui prévaut depuis plus de 30 ans déjà. Mais depuis décembre 98, il y a une loi 98-757 du 23 décembre 1998 qui punit l'excision et qui permet vraiment de réprimer toutes les formes de mutilation génitale féminine. Et donc, une personne qui est en situation ou bien qui est victime ou qui est témoin peut porter plainte. Donc déjà, il y a une avancée parce que sur le plan régalien, il y a quelque chose qui est fait. Malheureusement, on ne doit pas s'arrêter à la loi parce que vous savez que ce qui encadre les mutilations génitales féminines, c'est que ce sont des actions qui étaient menées dans un contexte socio-culturel particulier. Et donc, il y a eu du mal à dissocier les actions culturelles et ces incidents sur la vie de ces jeunes filles-là. Mais de plus en plus, il y a eu beaucoup de sensibilisation pour dénoncer ces pratiques. Et je pense que de plus en plus, pour la nouvelle génération, la question ne se pose plus dans les mêmes thèmes qu'il y a une trentaine d'années. Mais le fléau continue d'exister. Pour les statistiques, ce sera difficile parce que parfois, ces personnes ne se rendent pas dans un centre de santé. Et donc, on ne peut pas avancer des chiffres, nous, en tout cas, à notre niveau. Mais nous savons que c'est un fléau qui perdure et pour lequel nous devons continuer la lutte.
C'était la présidente du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, CFCI, Julie Kone, joint par Linda Balier. On prend la direction de la région de l'Ouest du pays où le projet PGDEC 3 est entré dans sa phase de sensibilisation et d'enrôlement après des missions de lancement éclatées dans les 5 départements du Tonkpi que sont Man, Biankouman, Sipilou, Danané et Zouaounien. Notre correspondant régional Stéphane Adams a suivi pour nous l'étape de Yorodougou dans le département de Sipilou.
Le sous-préfet de Yorodougou, commandant Mian Kouadio Ignace, à l'intention des jeunes ayant répondu à son invitation massivement d'ailleurs, a fait cette adresse à leur endroit.
Aujourd'hui, c'est les Timo, c'est une autre opportunité, il faut saisir. C'est des travaux de passage. On ne vient pas s'installer dedans. On se appuie sur ça pour s'accrocher quelque part. Ça nous aide à trouver quelque chose de meilleur si on sait s'organiser. Et ça, c'est important. Dans le même cas de ces projets-là, toujours dans l'action du gouvernement, il y a des femmes qui sont parties à partir de rien. 36 000 francs. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des fermes, payé 2 poules avec les œufs. Elles ont commencé à vendre. Il y a certains au nord qui ont payé 2 chèvres. Il y a d'autres qui se sont débrouillés pour avoir un bœuf. Aujourd'hui, leur vie a changé. Il y a bas-fond ici, il y a tout ici. Et tu as un bas-fond. Après le peu que tu as, tu peux t'investir déjà. Donc, je souhaite, comme les initiateurs le disent, il faut saisir ce projet-là. Il faut faire de ça un projet qui va nous aider à aller de l'avant.
L'avis de quelques participants en fin des rencontres.
Touré, Thomas Delphine. On allait s'inscrire aujourd'hui. En tout cas, c'est très bon. J'encourage les soeurs donc, à venir s'inscrire aussi. Parce que ce projet-là, j'espère que ça va aller. Ça va nous aider beaucoup.
C'est ce qu'il faut pour la jeunesse, pour qu'il y ait une autonomie financière à se prendre en charge parce que l'État aujourd'hui est incapable de recruter tout le monde à la fonction publique. Donc, nous disons merci à la Banque mondiale et le Conseil régional de Tonkpi Yégal.
Notons que le projet PGDEC 3, dans sa phase d'enrôlement, prendra fin le 21 février 2024, ont indiqué les initiateurs. Stéphane Adams, de Yorodougou, Radio de la Paix.
Ouvrons le chapitre de la Coupe d'Afrique des Nations en Cannes 2023 dans ce bulletin. Les membres du groupe d'études techniques de la CAF, des légendes du football africain et les médias se sont retrouvés ce lundi 5 février 2024 pour une discussion technique et tactique sur la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Organisée au centre principal des médias au sein du Palais de la Culture de Trècheville, il a été question pour les participants d'échanger autour de l'organisation de la Cannes et proposer quelques innovations. Didier Blé.
La Coupe d'Afrique des Nations progresse tout naturellement dans son organisation, les infrastructures, la logistique déployée, la couverture média, mais aussi dans le jeu, ce qui fait son essence. Erita Ilunga de la RDC, panéliste.
Une compétition très 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 haut niveau, que ce soit dans l'organisation, que les joueurs, les entraîneurs, le coaching qu'ils font, les qualités des staffs techniques, le gap entre les grandes équipes et les petites équipes qui se réduit, la prise de conscience aussi des joueurs qui font que effectivement on vit une bonne compétition et qui est compétitive.
Discipline tactique avérée, concentration, amélioration du plan de jeu, coaching gagnant et des gardiens de but de classe internationale, mais aussi l'arbitrage, jugé ici par l'ancien gardien camerounais Joseph-Antoine Bell, membre du groupe d'études techniques de la CAF.
Personnellement, j'ai été plutôt content. L'arbitre n'est plus un homme seul, donc c'est une équipe d'arbitrage qu'il faudrait que les équipes, après leur résultat, surtout quand le résultat est négatif, ne se retournent plus vers l'arbitre, puisque généralement ils s'en prennent à l'arbitre central. Il n'est pas tout seul.
L'instauration de la VAR dans le premier tour, tout comme la pause rafraîchissante ou cooling break, font partie des toutes nouvelles touches de cette CAN 2023. De Sébastien Basson du Cameroun à Abdul Shiba du Ghana, Edgar Soubi d'Ouganda ou Clémentine Touré de Côte d'Ivoire, tous ont estimé qu'en termes de rebondissement, d'inversion de la pyramide et d'intensité, cette CAN est une totale révolution.
Depuis le début de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, on assiste à des jeux de taquinerie et de raillerie sur les réseaux sociaux entre les différents pays participants à cette compétition. Des jeux pour le moins inoffensifs, mais qui peuvent virer à des conflits inter-États pour éviter d'en arriver là. Fulgence Canon, membre du secrétariat permanent du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Repelsi, interpelle et les joint par Christelle Yesso.
La base, c'est juste pour se taquiner, juste pour s'amuser. Donc, c'est pas mauvais en soi. Tant que ça reste dans le domaine de juste s'amuser, plaisanter, se charité, il n'y a pas de souci. Mais c'est lorsque ça rentre dans les invectives, dans les injures, dans ce moment-là, il y a problème. Et il nous revient de pouvoir interpeller ces différentes personnes qui interviennent sur les réseaux sociaux afin de mettre un peu d'eau dans leur vin. Et tant qu'on reste dans le domaine de l'amusement, il n'y a pas de souci.
Alors, quelle lecture vous pouvez faire de ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sur les réseaux sociaux, ensuite entre la Côte d'Ivoire et le Mali?
Dans ce genre de situation, il y a toujours, bon, excusez-moi du terme, on peut dire des extrémistes. Voilà, il y a toujours certaines personnes qui débordent un peu dans leurs paroles, dans leurs agissements. Bon, il faut les corriger, il faut les interpeller, il faut les sensibiliser. Il faut dire que le football, c'est un jeu. Voilà, donc après ça, on se retrouve et on vit ensemble. La preuve, la Côte d'Ivoire regorge ici de beaucoup de frères qui viennent de l'étranger. Il n'y a pas de souci, on cohabite bien ensemble. Donc après le foot, ce n'est pas la guerre. Donc nous, ce qu'on peut faire en tant que réseau ou bien en tant que journaliste, c'est de pouvoir sensibiliser ces différentes personnes à juste rester dans la limite de juste s'amuser.
À l'instant, Fulgence Canon, membre du secrétariat permanent du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire et Plessy, qui interpelle sur l'utilisation des réseaux sociaux en cette période de Cannes 2023. Hors de nos frontières, au Sénégal, l'accès aux données mobiles qui était bloqué depuis lundi a été rétabli ce mercredi dans la capitale dakaroise. Cette interruption avait été justifiée par le ministère des Télécommunications par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages haineux et subversifs dans un contexte de menace de troubles à l'ordre public. Le Parlement a voté lundi une loi reportant la présidentielle du 25 février au 15 décembre et prolongeant le mandat du président sortant Macky Sall. Cet ajournement et les conditions dans lesquelles il s'est produit ont causé un tollé et fait craindre de vives réactions dans la rue qui se sont limitées pour le moment à de rares manifestations réprimées. Et puis en RDC, les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés ce mercredi dans l'est du pays autour de Saké, cité considérée comme stratégique sur la route de Goma, ont indiqué des habitants. Ces derniers jours, des affrontements dans le territoire de Massissi, à l'ouest de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, ont provoqué de nouveaux déplacements des populations et fait plusieurs dizaines de blessés acheminés dans les centres de santé débordés, ont par ailleurs souligné des sources humanitaires. Amorçons le dernier virage de ce bulletin avec l'invité de la rédaction. Le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, quelles conséquences économiques pour les pays de l'Alliance des États du Sahel et l'organisation sous-régionale? Dr Germain Cramaud, enseignant d'économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et par ailleurs chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Dr Germain Cramaud, bonjour.
Et bonjour, Monsieur Comé.
L'actualité dans la sous-région, c'est cette décision de retrait annoncée par trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Comment vous interprétez cette décision déjà?
C'était plus ou moins prévisible au regard des tensions qui existaient entre les deux parties, mais on avait toujours l'espoir que les choses s'arrangeraient vu que de plus en plus on fait la promotion des regroupements régionaux pour pouvoir faciliter le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Les dirigeants de ces trois pays ont donné les raisons de ce retrait. Ils les reprochaient donc certaines choses à la CEDEAO. Mais pour vous, en tant qu'économiste, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision?
Le retrait de ces trois pays aura certainement des conséquences négatives sur les deux camps, aussi bien les pays qui se retirent que les autres pays de la CEDEAO, parce qu'il y a des liens qui existent déjà entre ces pays qui permettent à ces pays d'échanger plus facilement. Donc il y a une suppression des droits de douane entre ces pays membres de la CEDEAO, mais avec leur retrait, ils deviennent des pays hors CEDEAO, donc il va falloir rétablir ces barrières tarifaires, donc ils vont avoir aussi un impact sur le coût de la vie des deux côtés. Mmh. À cette illustration, nous voyons que le Mali est le principal pays importateur intra-CEDEAO, avec 28% des importations intra-CEDEAO, suivi par la Côte d'Ivoire, 25%. Mmh. Donc nous voyons que là, ce sont des pays qui font du commerce avec les autres pays membres de l'UMOA, donc leur retrait impacter les deux camps.
Pour mieux comprendre les conséquences, la CEDEAO, justement, quels sont les avantages d'être membre?
Oui, les pays membres de la CEDEAO ont décidé de se regrouper pour supprimer tout ce qui est barrière tarifaire entre eux, donc ce qui permet de faciliter la circulation des biens et des personnes. Donc, on peut importer, exporter librement entre les pays de la CEDEAO. Et vis-à-vis des pays non membres de la CEDEAO, les pays ont adopté le même tarif extérieur commun. Et en termes de négociations aussi, généralement, les pays négocient en bloc avec d'autres partenaires extérieurs. Tout cela constitue des avantages. Et il y a des projets, je peux dire, sous-régionaux qui sont financés par la CEDEAO et qui permettent de renforcer tout plus ou moins les liens en ces pays-là.
L'une des raisons avancées par donc, les autorités de ces trois pays, Mali, Burkina et Niger, c'est donc ces décisions économiques prises contre des pays, notamment le Niger, avec cette asphyxie économique, hein, ce sont les termes de ce communiqué. Est-ce que les textes de la CEDEAO prévoyaient donc ce type de sanctions?
Je pense que le fonctionnement de la CEDEAO est bien régi par des textes et lorsqu'il y a des changements anticonstitutionnels, il y a des textes et les textes prévoient la démarche à suivre. Je pense que si les décisions étaient contraires aux textes de la CEDEAO, la voie la plus appropriée, c'est d'attaquer cette décision. On attaque la décision pour dire que cette décision est contraire à nos textes. Et je dis que même individuellement, les pays sont souverains, ils peuvent décider de commercer avec un pays ou pas.
Alors, vous l'avez dit, hein, justement, comme conséquence, c'est par exemple l'imposition des taxes désormais aux frontières avec ces trois pays. Mais on note que le Burkina, le Mali et le Niger font encore partie de l'UEMOA. Alors, quels sont les avantages de rester encore membre de l'UEMOA par rapport à la CEDEAO?
La sortie de ces pays de la CEDEAO aura aussi un impact sur leur appartenance à l'UEMOA, puisque ces pays au sein de l'UEMOA aussi appliquent pratiquement les mêmes tests, c'est-à-dire la suppression des tarifs douaniers entre les pays membres. Donc, si ces trois pays deviennent des pays non membres de la CEDEAO, donc les autres pays membres de l'UEMOA doivent appliquer aussi les mêmes tests qui régissent la CEDEAO relativement aux pays non.
Et quelles sont donc les perspectives qui s'offrent donc à ces trois pays désormais après cette décision, surtout au plan économique?
Selon moi, en termes de perspectives, c'est de réorganiser leurs échanges à travers le monde. Parce que ces pays n'ayant pas d'accès à la mer, donc il va falloir négocier avec d'autres pays pour faciliter le commerce avec l'extérieur. Et je pense que tout dépend de la stratégie que ces pays vont élaborer. Nous vivons dans un espace commun, donc il est important qu'on ait des relations de bon voisinage. Il y a des pays comme le Rwanda qui n'ont pas accès à la mer, mais qui connaissent un développement qui est cité en exemple à travers le continent. Donc le fait de ne pas avoir accès à la mer constitue pas, je peux dire, un frein, mais tout dépend des relations de bon voisinage que ces pays vont entretenir avec les autres voisins. Donc, nous espérons que cette décision s'inscrit dans une stratégie globale qui permettra à ces pays d'amorcer le développement.
Justement, dans cette perspective stratégique, est-ce qu'on peut voir le retrait de ces trois pays aussi de la zone CFA avec la création d'une monnaie commune?
Oui, bon, il faut s'y attendre. Ils ne seront pas les premiers pays à avoir leur propre monnaie. Donc, je pense que pour moi, tout ce qui concerne la monnaie, c'est la gouvernance autour de cette monnaie. Qu'est-ce qu'on met pour gérer efficacement cette monnaie, pour éviter que cette monnaie, au lieu d'être un instrument de développement, soit source de problèmes. Donc pour moi, le fait d'avoir leur monnaie n'est pas vraiment le principal défi. Le défi, c'est comment gérer efficacement cette monnaie pour que cette monnaie soit effectivement un instrument de développement économique.
Docteur Germain Cramo, je vous remercie.
Merci à vous.
Docteur Germain Cramo était l'invité de la rédaction et intervenait suite au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO, et sur les conséquences économiques que pourrait engendrer ce retrait sur les pays concernés et l'organisation sous-régionale. C'est avec cette information que nous mettons un point final à cette édition, dont voici le rappel des titres. Les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire ont signé un accord relatif aux opérations de lutte contre les activités maritimes transnationales illicites. Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, une discussion technique et tactique sur l'organisation de la compétition s'est tenue au centre principal des médias au Palais de la Culture de Trècheville. Elle a réuni les acteurs du football africain le 5 février dernier. Et puis au Sénégal, l'accès à Internet par les données mobiles est rétabli depuis ce mercredi dans la capitale du Sénégal, Dakar, après deux jours de suspension décrétée par les autorités sur fond de grave crise politique. Merci de nous avoir suivis. À présent, la revue de la presse ivoirienne proposée par Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 en Côte d'Ivoire, se poursuit avec ce mercredi 7 février les